Ses méthodes de recrutement et de vente ont fait son succès.
J'avais que Google dans le viseur. Et je l'ai eu au bout de 3 mois. Comment j'ai fait ?
Dans cette interview, découvre l'importance de la culture d'entreprise, les stratégies de vente et communication, des plans de croissance d'entreprise, comment recruter des collaborateurs idéaux et comment gérer les moments de stress.
On a identifié toutes les interactions qu'on a avec le prospect qui devient client. On a créé une méthode qui s'appelle le Sales Ninja et c'est 7 étapes.
Nous sommes avec Olivier Ramel, cofondateur de Kimono, startup comptant plus de 2500 clients dont Google et LVMH. Kimono, c'est aussi plus de 10 millions de chiffres d'affaires en 3 ans et un déploiement sur 4 pays. Il accompagne des sociétés à créer leur culture d'entreprise et leur permettre de développer une véritable identité. Nous avons été très sensibles à la vision d'Olivier, à sa volonté d'améliorer l'ambiance des lieux de travail pour permettre l'épanouissement des collaborateurs et tout ça en l'appliquant à son propre business. Il y a beaucoup à apprendre de sa manière de recruter ainsi que de ses techniques de vente et de communication. Si tu veux améliorer ta stratégie commerciale tout en créant une relation sincère avec tes clients, tu vas adorer cette conversation. Et tu vas même savoir comment il a obtenu Google, tu écoutes le podcast Business Tribe.
Ces 2 dernières années, là, je me suis bourriné des bouquins sur la culture d'entreprise, le recrutement, comment t'as des A-players. Et je pense que ma réalisation, c'est tu peux pas construire une boîte légendaire si tu fais pas attention à la culture d'entreprise que tu crées. Et je t'ai découvert en regardant une vidéo justement dans ma recherche, là, obsessionnelle de comment tu fais pour faire en sorte que les meilleurs collaborateurs, tu les attires à toi. J'ai aimé ta personnalité. En 3 ans, tu as fondé Kimono. Vous allez vers les 10 millions de chiffres d'affaires en 1 an. Donc, c'est vraiment beau. Avant, tu as créé d'autres choses. Mais malgré tout, 28 ans. Donc, c'est vraiment beau.
C'est ça.
Et voilà, donc la raison pour laquelle j'avais envie que tu partages, c'est 2 choses. Déjà, parce que juste en étant vivant, tu montres que c'est possible à cet âge-là. Et aussi qu'on parle de culture d'entreprise.
Donc en fait, Kimono, on dit qu'on est les culture designers. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que ta culture d'entreprise, c'était devenu clé, que c'était devenu la priorité d'une boîte. Pourquoi ? Parce que ça permet d'attirer des talents et ça permet de garder des talents. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de bon produit, il n'y a pas de bon service, il n'y a qu'une bonne équipe. Parce qu'en fait, avoir un bon service, avoir un bon produit, c'est devenu la norme. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de concurrence qu'aujourd'hui, le marché n'attend que ça. De dire que j'ai le meilleur produit du monde, ça ne marche plus pour attirer des talents. Ça ne suffit plus. C'est cette culture qui va attirer ces A-players. Et donc du coup, quand on a commencé à se concentrer sur le sujet, je me dis, bah ouais, c'est hyper important. Mais c'est quoi en fait la culture ? C'est pas nouveau, on ne l'a pas inventé le terme culture d'entreprise. Il existe depuis 20-30 ans, sauf qu'il a souvent été galvaudé et surtout dénigré parce qu'on disait, ouais, la culture d'entreprise, de toute façon, c'est bullshit. C'est des mots sur un mur, mais tout le monde s'en fout.
Et c'est vrai que tu voyais dans plein d'entreprises, mission, valeur, machin, et tu demandes aux équipes c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos missions, personne ne les connaît.
Ils savent pas. C'était ça, tu vois, parce que non, le but c'est de faire du chiffre, il y avait d'autres enjeux. Et je pense qu'une génération aussi a joué à ce switch. Et donc du coup, on se dit, bon bah, on a commencé à segmenter la culture. Donc on se dit, qu'est-ce que c'est la culture foncièrement ? Donc on commence à dire, bah en fait, déjà, ta culture d'entreprise, c'est déjà quand même ton lieu où tu travailles. Donc ton environnement de travail. Et on se dit, bah ouais, en fait, l'aménagement de ton espace, ta déco, les couleurs que tu y mets, l'organisation que tu fais, montre un peu ta culture. Et par exemple, je prends souvent l'exemple de Google, qui, a dès le début, et beaucoup de boîtes américaines technologiques, qui ont créé des bureaux incroyables. Quelle a été la première raison ? C'était de dire, bah en fait, nous, on veut attirer les meilleurs informaticiens du monde. C'est des mecs qui sont très demandés. Il faut qu'ils se sentent bien chez eux. Donc, on va faire des bureaux magnifiques. Donc, ta culture, c'est ton environnement de travail. Ta culture, c'est aussi la manière dont tu communiques. Pareil, par exemple, une des premières startups, on va dire, à l'époque, c'est Michel Augustin, qui a été extrêmement connu sur leur manière complètement décalée de communiquer sur leurs produits, mais aussi sur leur entreprise. Les fondateurs parlaient toujours de leur bureau, qui s'appelait La Bananerie, et disaient toujours « Venez nous voir ». C'était bizarre pour une entreprise, surtout qui vend des gâteaux, d'ouvrir ses portes. Et en fait, dans la manière dont ils ont communiqué, avec leur packaging, leur nom, etc., bah, ça leur a permis de vendre des millions de gâteaux et surtout d'attirer des vrais talents. Et moi, je me souviens, il y a 10 ans, à l'époque, quand tu sortais d'une très grande école, souvent, tu étais attiré par du L'Oréal ou du cabinet de conseil, etc. Michel Augustin était les premiers à attirer vraiment des HEC, des gros talents. Alors, je ne dis pas que les talents sont tous des HEC, mais à l'époque, dans la
tête... Parce qu'il y a des gens qui ont l'option et la possibilité d'avoir les plus grandes entreprises qui, là, d'un coup, choisissaient d'aller plutôt vers...
Exact. Donc, la manière dont tu communiques attire des talents. Donc ça fait partie de ta culture. Le dernier exemple que j'utilise souvent pour présenter la culture, c'est aussi la manière dont tu es représenté. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a toujours différencié, quand tu parles de marque, on va dire, ah bah c'est les marques de vêtements, les marques de ces produits. Et il y a les entreprises. Et on a parlé aussi du sujet de marque employeur. Et en fait, tout ça ne fait qu'un, c'est chaque entité, donc que tu aies une asso, un club, un groupe d'amis, une entreprise, tu es une marque. Donc, qui dit marque dit code du branding. Et donc, du coup, comment tu te représentes ? Et donc, quand on prend les codes du branding, ça va être souvent une couleur, un drapeau, une charte graphique, un logo, etc. Et aussi un vêtement. Kimono, notre métier initial, c'était de faire des vêtements personnalisés pour les entreprises. Et du coup, ta culture, c'est aussi la manière dont comment tu es représenté à travers des produits, des services et en l'occurrence des vêtements. Donc ça, c'est comme ça qu'on a créé Kimono, premier produit vêtements. Mais en fait, la vraie vision, et comme tu l'as dit au début, nous, c'est d'être des culture designers. Donc c'est un terme qu'on a inventé, c'est de dire, donc ta culture est importante, et bien, nous, on va t'aider à la designer à travers différents produits, différents services. Donc aujourd'hui, on fait aussi tout ce qui est objet personnalisé, mais aussi maintenant, on fait des bureaux personnalisés où on aménage de A à Z des espaces d'intérieur.
Comment tu as eu l'idée? Est-ce que ça t'a paru évident que ça marcherait? Qu'est-ce que disaient les gens autour de toi quand on parlait?
Je m'étais dit, c'était évident que ça allait marcher parce qu'en fait, ça marchait déjà. C'est-à-dire que le marché du textile personnalisé B2B existe depuis 30-40 ans. C'est pas nouveau qu'une société a des vêtements à l'effigie de sa boîte, pour des événements, pour leur force de vente, pour des salons, ça existe déjà.
Air France, McDo, on voit qu'ils mettent beaucoup de valeur là-dessus.
Les uniformes, etc. Et en fait, on s'est dit, mais le marché, c'est quoi aujourd'hui sur le textile personnalisé? Parce que du coup, c'est comme ça que l'idée est venue, c'est de dire, il y a un marché, mais l'offre, elle est nulle. On nous a tous offert une fois dans notre vie à des événements où tu te dis, bon bah, ce t-shirt ou ce pull, ça va être mon pyjama ou je vais le mettre pour faire des travaux. Et donc du coup, on s'est dit, l'offre, elle est vraiment nulle en produit, mais aussi en service, parce qu'ils se sont dit, y a tellement de demandes que je m'en fous du care service, donc de prendre soin de mes clients. Même les grands groupes se disaient, où est-ce que je vais commander? C'est la patate chaude que tu te refiles dans les entreprises, parce que c'est toujours une petite commande, ils me disent, c'est compliqué, quand tu tapes sur Internet, tu sais pas comment faire, t'étais perdu. Et comme j'avais déjà une expérience dans ce domaine, qui était en fait mon premier projet entrepreneurial, on avait identifié qu'il y avait une demande forte, on s'est arrêté sur ce marché textile.
Est-ce que toi, le monde du vêtement, le monde de la culture, c'est un truc à la base que tu kiffes ou tu as découvert que tu le kiffes?
Alors c'est quelque chose que je kiffe de base, en tout cas les vêtements. Je suis sensible à ça, c'est-à-dire je sais reconnaître un beau vêtement, j'aime bien m'habiller, enfin en tout cas bien m'habiller, etc. C'est quelque chose qui me plaisait de base.
Ouais.
Voilà. Mais en fait, comment c'est venu, tu le sais jamais. En fait, ça c'est une vraie règle de vie que j'ai, c'est qu'en fait moi je confronte toujours mes idées et je parle beaucoup avec plein de gens en permanence. Et du coup, j'avais pas du tout prévu de faire ça. Pour te expliquer la genèse de l'histoire, c'est que je quitte ma dernière entreprise où justement c'était dans le monde de la food et justement je m'étais rendu compte que ça me faisait pas vibrer. Tu vois, de base, je suis pas un grand cuisinier et donc j'avais plus ce petit côté épanouissement personnel ou le truc qui te fait vibrer pour justement bosser dur et réussir ta boîte. Et du coup, je quitte cette boîte et je me dis qu'est-ce que je fais? Et en fait, c'est parti d'une rencontre et en fait, je pense que tous les projets partent d'une rencontre et que même si t'as l'idée seule, si tu veux qu'elle soit vraiment bien, elle va être avec quelqu'un d'autre. Et je connaissais bien The Family, donc qui est une structure d'accompagnement pour les startups, les entrepreneurs que beaucoup de gens connaissent à travers leurs vidéos et leurs contenus autour de l'entrepreneuriat. Et en fait, j'adorais ce qu'ils faisaient. J'aimais bien leur parti pris, leur côté un peu pirate, etc. Et du coup, je rencontre Alice qui est la CEO, Alice Zaguri, et je lui dis, il faut qu'on parle. Et en fait, on se pose autour d'un café et on discute. Et en fait, pour la petite histoire, c'est que mon premier projet au lycée, j'avais fait le suite officiel de mon lycée, un peu à l'américaine. Donc, ça s'appelait Lycée Alexandre Dumas. Et donc, j'avais fait le suite officiel Dumas High School, Sins, un peu à l'américaine. Premier pas d'entrepreneuriat, très cool, ça a super bien marché, c'était super expérience. Moi, déjà, ça a été un déclic de vie pour me dire, à partir de maintenant, je veux créer dans ma vie pour toujours. À côté de mon quotidien d'étudiant, je voulais avoir un projet qui m'anime dès le réveil. On parle comme ça. Et le moment où je lui parle de ce petit projet, c'est là où elle me dit, ah, mais tu sais que toutes mes startups, donc ils ont plus de 300 boîtes dans le portefeuille, m'appellent tous les jours pour me dire, tu connais un mec qui fait des vêtements personnalisés ou en tout cas une boîte, nous on galère, elle me dit même nous The Family, on galère à se faire des vêtements The Family. Et c'est là où je lui ai dit, en fait tu sais que je connais une autre personne qui est le meilleur ami de mon frère, qui est dans le métier du textile depuis 10 ans, il a une usine, etc. Là on s'est dit, viens on s'arrête sur ce produit. Donc tu vois, il y a quand même une histoire derrière, je me suis pas dit, le textile me plaît, je vais aller voir le marché. C'est des choses où je suis hyper à l'aise parce que je m'étais pas dit je suis fan de culture d'entreprise. Je m'étais dit, en fait, c'est un sujet qui m'importe énormément, je pense, parce que c'est lié au bonheur, c'est lié à ton épanouissement personnel, c'est lié à ton aventure professionnelle. Et moi, j'ai toujours été un philosophe sur la vie parce qu'on sait qu'elle est courte, on sait qu'on n'a pas le temps pour être négatif. Et donc, du coup, je suis très optimiste, voire parfois trop, mais ça aide. Et du coup, je me suis toujours dit, fais un truc qui te fait kiffer, etc. Et je pense que comme la culture d'entreprise est liée à tout ça, aujourd'hui, maintenant que j'ai du recul, ça me plaît énormément pour ça. Parce que notre génération veut vivre une aventure. On ne suit plus une carrière juste pour de l'argent ou autre. Bien sûr, ça aide, mais on fait des choses pour vivre quelque chose d'incroyable. Et du coup, quand tu allies culture avec ce mindset et textile que moi j'adore et la mode, etc., Bah là, je pense que j'ai trouvé vraiment ce que je kiffe.
Alors tiens, justement, j'aimerais comprendre votre process parce que ça va, comme tu dis, c'est au-delà de créer des vêtements. Ouais. C'est vraiment designer la culture. Quand tu as une startup là, qui vient vous voir, comment ça se passe le process avec Kimono? C'est-à-dire, au-delà de la partie créer le vêtement, mm-hmm. comment arriver à faire transparaître la culture qui est dans la boîte dans justement un univers visuel? Comment vous faites?
Aujourd'hui, donc, tu nous contactes sur le site ou par mail. Sur le site, tu as un petit questionnaire à remplir qui en fait accélère un peu le process, à savoir quelle est ta demande, quel type de produit justement. Donc, on commence déjà à te mettre des premières questions à te poser. Donc, du coup, quel type de vêtements, quelle quantité, etc. Parce qu'on est dans un métier où il y a des personnes comme toi qui vont avoir le temps et qui vont vouloir venir nous voir. On a un showroom, on les aide, on les conseille, etc. Mais il y en a où ils nous appellent, je veux ça pourtant maintenant. Et donc, du coup, il faut jouer avec plus de presque 100-150 demandes par semaine entre ceux qui veulent vraiment se poser et qu'on les aide. Et dans ce cas-là, ils nous contactent, comme je te disais. Ils nous font une demande et ils nous disent, on cale un rendez-vous, un call avec eux, que ce soit dans notre showroom ou que ce soit au téléphone s'ils ne peuvent pas se déplacer. Et là, l'idée, c'est vraiment comprendre ton besoin, comprendre qui tu es. Donc, on va te demander des éléments. Pourquoi tu as eu envie de faire ça? Pourquoi tu as envie? Est-ce qu'il y a une date précise? Il y a un enjeu précis, etc. De fil en aiguille, on pose plein de questions. Nous, on connaît nos produits, on sait comment les designer. Du coup, ensuite, on va te faire des propositions. On va te designer des maquettes. Et après, en fait, avec tes allers-retours, on collabore ensemble. J'ai des clients, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ils vont me dire, moi, je veux une veste, un peu teddy, bleu marine, avec mon petit logo là, pour toute ma team. Super, quels sont vos produits? Et là, on va dire, on a celui-là, celui-là, celui-là. Après, on va te recommander les meilleures techniques, parce qu'on a une dizaine de techniques de personnalisation, que ce soit l'impression numérique, la broderie, la sérigraphie, etc. On va t'envoyer des échantillons, etc. Et donc, du coup, j'ai pas de règle unique parce qu'en fait, c'est du cas par cas pour tout le monde. Mmh. Là, aujourd'hui, on a dépassé les 2000 clients, donc B2B. Donc, ça va d'une petite start-up à un restaurant, à un hôtel ou un grand groupe comme L'Oréal ou LVMH ou même des universités.
Il y a une entreprise que vous avez eue, t'étais vraiment genre, c'est trop cool.
Ouais, Google.
Google, vous avez
eu? Ouais, dès le début. Et dis-toi, quand on a lancé, donc j'étais le seul sales à l'époque et j'avais que Google dans le viseur. Et je l'ai eu au bout de 3 mois. Mais je l'ai eu et je me suis battu. Comment j'ai fait? Déjà, je me suis dit, Google, c'est gros. Je ne peux pas contacter comme une startup où je peux contacter le fondateur sur Facebook ou trouver le mail et lui contacter et basta. Là, c'est une grosse organisation. Il y a un nom et en plus, le sujet de culture, le sujet, ils sont dedans. On ne va pas les impressionner, en tout cas, ce que je pensais. Je me suis dit, OK, est-ce que je connais des gens qui travaillent chez Google? J'ai regardé un peu dans mon réseau et il y avait une personne, en effet, j'avais vu, il faisait des posts, etc. Donc là, je lui ai écrit. Et je lui dis, au fait, t'es chez Google, j'ai lancé Kimono, parce que c'était tout récent, ça faisait 2 mois. Et il me dit, trop cool, tiens, voilà le mail de la personne en charge. Ok. Et donc là, j'envoie le mail, le catalogue. Je lui dis que je viens de la part de Steven, il s'appelait. Et il me répond, et donc du coup, je lui envoie le catalogue. Il me dit, génial, on n'a pas de besoin imminent, mais je te dis, etc. Et en fait, il revient une semaine après en me disant, au fait, d'ailleurs, il y avait Vivatech qui est arrivé, le salon autour de l'innovation entre les startups et les grands groupes. Et il me dit, on a besoin. 300 suites, assez rapidement, etc. Je lui dis, OK, c'est pour quand? Et il me sort une date, dans 72 heures. Et là, je découvrais un peu ce métier avec mon associé, qui lui était l'expert, et donc du coup, j'avais pas réponse à tout. Mais tu dis jamais que tu sais pas. Donc tu dis, OK, je vais voir, je te rappelle après, je m'en occupe. J'appelle mon associé, je lui dis, c'est le plus gros client qu'il me faut. En tout cas, c'est pas le plus gros en termes de volume et de chiffres, c'est le client qu'il me faut, parce que je veux communiquer dessus, mais surtout, c'est ma petite victoire perso. Je veux Google, qui est le symbole de la grosse startup qui a réussi énorme en culture d'entreprise. Et mon associé me dit, non, c'est pas possible de livrer dans ce temps, etc. Là, j'accepte pas le non. Je lui dis, c'est pas possible, il faut le faire.
Tu te démerdes.
Donc, on s'est démerdé comme des oufs et on a réussi à livrer pile on time. Le mec me dit, mais c'est ouf, comment vous avez réussi? Trop bien, merci, on est super contents, trop cool. Et depuis, ça a créé une vraie relation. Et c'est nos clients depuis presque 3 ans, ils ont passé plus d'une trentaine de commandes.
C'est super intéressant, à plein de niveaux, ce qu'on peut apprendre, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou pas, comment identifier le genre de client qui te fait rêver, ou si tu es salarié, l'entreprise qui te fait rêver. Essayer de voir si tu connais des personnes qui se rapprochent, des personnes qui pourraient avoir une influence. C'est mon client rêvé, je vais tout faire pour essayer de lui apporter presque plus que ce qu'il pense possible, dans l'exemple.
Moi, j'en ai eu beaucoup des clients rêvés. Et tu vois, nous, notre positionnement au début, c'était vraiment d'habiller toutes les startups. C'était vraiment la niche qu'on s'est donnée au début. Vraiment, les startups font très attention à leur image et à leur culture. Ouais. Et elles travaillent sur ça. Donc en fait, ceux à qui ça va leur parler, mais directement, ça va être eux. Aujourd'hui, ça parle à tout le monde, mais ils étaient vraiment sensibles.
Comment vous avez choisi le prix qui est juste, sachant qu'aujourd'hui tu peux faire imprimer des t-shirts en Chine?
Exact.
Comment vous avez positionné le tarif de se dire là, ils seront, les startups ou les grands groupes seront prêts à acheter alors qu'on peut faire imprimer un t-shirt ailleurs?
Quand on s'est rendu compte que le marché était vraiment nul, comme tu dis, tu peux trouver des t-shirts à 1€ sur plein de sites et même pas spécialement en Chine, même ailleurs. Du coup, on s'est dit, en fait, la demande, elle a changé. Elle veut plus juste le prix et le produit cheap. Elle veut des produits de qualité qui respectent les codes de la mode du prêt-à-porter, que tu es fier de porter. Donc, il y a une dimension qualité, il y a une dimension aussi service. Ça veut dire, oui, on n'y connaît rien à ce métier, aidez-nous et on veut vraiment pas s'en occuper. Donc, on veut une boîte qui soit rapide, professionnelle et en plus joyeuse, en tout cas, qui rend l'expérience fun. Parce qu'il faut se rappeler, on vend pas un logiciel de facturation. Donc, quand une entreprise nous contacte, autant lui rendre son expérience heureuse. On parle de vêtements, c'est cool, c'est sympa, etc. On a créé ce qu'on appelle la Customer Journey. Et donc, en fait, on a identifié donc, le premier contact jusqu'à la livraison, post-livraison, toutes les interactions qu'on a avec le prospect qui devient client. Et ce qu'on s'est dit, c'est que maintenant, tous ces moments doivent être incroyables. Que ce soit au téléphone, par mail ou en visu, ils doivent être incroyables. Donc, du coup, on a dit, c'est quoi ce moment incroyable? Du coup, on l'a écrit, noté et on l'a répliqué pour tout le monde.
Donne-moi un exemple d'un changement que vous avez opéré qui fait passer l'expérience de standard à quelque chose de vraiment au-dessus.
La plus évidente et celle qui vraiment nous a... Et j'ai une stat là-dessus qui est incroyable, c'est notre showroom qui rend l'expérience physique. Dans le monde du B2B, ça n'a jamais existé. Donc quand on a la directrice marketing du groupe Accor ou d'une petite startup et qu'ils mettent les pieds dans le showroom, on a designé le lieu de manière vraiment cet effet waouh. Et vraiment quand ils entrent, il y a cet effet waouh. Et là, on prend tous les principes de l'hôtellerie. Et on va te souhaiter la bienvenue, tu vois. Mais en fait, c'est tout con, mais souhaiter bienvenue aux gens, même quand t'es dans un restaurant ou autre, t'as un petit saut, dire merci, je suis bien accueilli. Ensuite, tu t'occupes d'eux, à savoir s'ils ont soif, etc., etc. Ce que je dis toujours, moi, à mes sales, c'est qu'on ne vend pas, on crée des relations. Je leur ai dit, oubliez de vendre, on ne vend plus. D'ailleurs, on a créé une méthode qui s'appelle le Sales Ninja. Et donc, arrêtez de vendre, on crée des relations. Donc, les 10 premières minutes du rendez-vous, on ne parle même pas du produit, on ne parle même pas de pourquoi t'es là, c'est on cherche à créer la relation.
Par exemple, comment ils font?
Faut déjà comprendre à qui t'as affaire. Est-ce que j'ai affaire à quelqu'un de timide? Est-ce que j'ai affaire à quelqu'un de super hautain? J'ai affaire à quelqu'un qui a confiance en lui, qui rigole, etc. Donc déjà, ce que je dis toujours, c'est que tu te positionnes par rapport à ton interlocuteur pour que lui soit à l'aise. On s'en fout que tu sois à l'aise ou pas, tu fais ton boulot, mais faut que lui soit à l'aise. Et donc du coup, tu vas beaucoup poser de questions.
Quelqu'un qui se dit, mais moi, c'est ce que j'ai envie, j'ai pas envie d'être un vendeur, j'ai envie d'être quelqu'un qui crée de la relation, mais qui est un peu, tu vois, un peu maladroit, qui sait pas s'y prendre. T'aurais une direction, en tout cas, de comment il pourrait faire pour s'améliorer?
Là, moi, je parle de ce que je connais, donc le B2B. Donc, ce que, on va dire, si c'est ma première fois, la personne, je vais lui demander, je vais dire, alors, ça fait combien de temps t'es dans l'entreprise? Soit elle va me dire, tout récent. Donc, du coup, je vais dire, tu faisais quoi avant? Et là, elle te raconte ton histoire. Et en fait, il faut une première question déclencheur. Donc, admettons, c'est ça. Et après, tu dois être à l'écoute sur le moindre sujet pour voir les points communs que tu peux avoir avec elle. Mmh. Genre, parce qu'avant, je bossais à Nantes. Je vais tous les étés à Nantes. T'es où? Trop cool.
J'adore l'idée. Moi, pour moi, effectivement, on se connecte avec les autres, avec les points communs. Comment tu trouves l'équilibre? Le ratio, en fait, tu la laisses parler, tu lui poses des questions et toi, tu vas parler.
T'es focus sur l'interlocuteur ou ton interlocutrice, qu'elle soit à l'aise. Et tu te dises, OK, comment cette personne, je peux lui faire en sorte qu'elle soit à l'aise? Et en fait, tu te rends compte que les mouvements que tu dois faire, est-ce que tu dois dire, tout est adapté autour de cette personne pour qu'elle soit dans une situation hyper confortable. Et en fait, tu l'utilises même dans ta vie perso quand tu reçois des gens chez toi. Comment tu fais en sorte que ils soient dans un moment à l'aise? Donc en fait, comme tu t'adaptes, t'es un peu très vif, donc t'es toujours en prise de recul, et t'es toujours en étant focus sur prendre soin de cette personne. Donc il y a un côté un peu, c'est pas le cœur qui parle, mais il y a un côté un peu amour qui dit, OK, cette personne, je la connais pas ou autre, j'ai envie de lui donner l'amour, en tout cas lui montrer que je suis quelqu'un de bien. Je prends soin de son état, donc psychologique. Tu vois, si je vois que ma première question un peu perso la dérange, hop, on change de sujet. Donc en fait, tu dois toujours prendre du recul et être en alerte en fait. Et c'est un vrai jeu psychologique qui, je pense, s'apprend avec le temps, se pratique. Et en fait, comment il se pratique, c'est quand t'as l'état d'esprit comme ça et du coup qui te déclenche tes actions.
Et toi, tu disais là que t'adores ça, le sales. Et attends, juste petite parenthèse avant de te poser la question. Il y a un truc qui me fascine avec les meilleurs commerciaux, les meilleurs vendeurs. C'est que souvent, tu vois, on a le cliché du vendeur qui justement bourrine, te met la pression. Exact. Et on déteste tous cet aspect-là.
Tout à fait.
Et ce que je peux observer chez les meilleurs vendeurs, c'est hyper paradoxal. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est les meilleurs vendeurs, donc factuellement, ils vendent le plus souvent. Mm-hmm. Et en même temps, il y a vraiment ce truc, tu parles de cœur, de s'intéresser à l'autre. Il y a un vrai désir de mettre l'autre à l'aise, de le comprendre. j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a dans ta tête. Parce que ce qui est complexe pour plein de gens, c'est que tu sais que t'es en train de vendre. Tu sais qu'il y a un objectif de vente.
Exact.
Et souvent, cet objectif de vente fait que des gens, d'un coup, vont être pas à l'aise, vont pas être naturels, vont justement mettre une pression. Enfin, moi, il y a un truc qui me fascine, c'est que les moments même... Alors, c'est différent, ça peut être sur scène. Les moments où je vais avoir le moindre tour du type « Ah, t'as été vendeur », c'est là où on a les meilleures ventes. C'est-à-dire qu'il y a comme un truc contre-intuitif où ça a été tellement fluide, tellement naturel, tellement j'étais au service et boum, ça explose. J'adorerais que tu décrives un peu ce qui se passe dans ta tête parce que je pense que la vente, que ça soit se vendre à une entreprise...
Tu te vends en permanence.
Tu vends ton voyage de noces à ta femme.
Tu vends cette soirée dans ce bar à tes potes.
À tes potes ou à tes parents.
Ou à tes parents, ou à tes parents, mais tu vends tout en permanence. En fait, il faut que tu gardes ton objectif en tête. Quel est ton objectif ? C'est de vendre, admettons, ce produit ou de faire cette vente à X euros de chiffre d'affaires. Ça, tu le sais, maintenant, tu l'oublies, tu sais que c'est ton objectif. Maintenant, t'es pas drivé par ça. Il y a un côté où il faut que ce que tu proposes et ce qui t'anime, que tu sois bien dans tes pompes, que tu sois passionné, que tu sois équilibré, etc. Et que tu te dises, dans tous les cas, si je le sors, les caractéristiques de mon produit, le prix, machin, de cette manière, il ne se vendra pas, comme t'as dit, ça fait le commercial à l'ancienne, etc. On sait que ça bloque les gens. Donc maintenant, tu dois faire complètement à l'inverse et de dire... Je dois créer une relation avec lui. Mais en effet, si tu le penses pas réellement et que tu ne veux pas, ça va être soit de la manipulation, soit le mec va le ressentir. Donc du coup, comment t'arrives à craquer et percer ce truc ? Par exemple, il y a ce côté, t'aimes les gens, donc il y a un côté très, très humain où tu dis, bon bah voilà, j'ai envie d'en savoir plus sur cette personne, donc je m'intéresse. Maintenant, je connais mon produit, j'arrive à identifier pourquoi il a besoin de mon produit. Déjà, la cible que tu dois choisir, Faut que ce soit on appelle ça le product market fit. Faut que déjà tu sais que à qui tu t'adresses, c'est la bonne personne. Tu réponds à son problème.
Déjà t'as une conviction à l'intérieur de toi que ce que tu proposes, ça va répondre à son besoin.
Exact. T'es pas à côté de la plaque, donc du coup sois à l'aise que tu lui proposes vraiment quelque chose qu'il a besoin. Donc sois convaincu que ça va l'aider. Donc déjà tu te places pas en mode je vais te vendre. Non, je vais t'aider. Pour faire référence à ce que tu disais avec le t-shirt pas cher et pourquoi nous, c'est que ceux qui viennent nous voir et qui ont des besoins pour leur équipe, ils sont 500, ils veulent faire des t-shirts. Bah moi je sais qu'ils ont besoin et je sais qu'ils ont vécu une expérience mauvaise avant. Donc je vais leur dire, bah nous de toute façon, tu verras, ça va être simple, ça va être rapide, je vais te faire en sorte que ce soit une bonne expérience. Donc bah je vais sourire, et on dit souvent que tu sais le sourire s'entend au téléphone. Je vais essayer d'être agréable avec toi, donc en tout cas enthousiasme, et je vais te montrer aussi que nos produits c'est les meilleurs. Et du coup, si je suis convaincu que mes produits sont les meilleurs, bah je vais te le montrer de la meilleure des manières. Et donc du coup, je te drive comme ça. Et surtout, on dit qu'un bon commercial est à l'écoute clairement, parce qu'en fait tu sais s'il est pressé, tu sais s'il a le temps. C'est un jeu psychologique où tu vas enlever des trucs, rajouter des infos, enlever des infos. C'est vraiment un jeu mental passionnant. J'avoue, il faudrait écrire un livre dessus parce que...
C'est peut-être un livre que tu feras après.
Bah peut-être, mais il faudrait que... Déjà, tu vois, j'ai posé la méthode du Sales Ninja. Donc justement, la méthode du Sales Ninja, c'est que chaque personne qui rentre chez Kimono, je leur ai dit, même des personnes qui sont pas en vente, hein. Je leur ai dit, ça c'est la base de la boîte et donc du coup il faut que tu l'apprennes par cœur. Et donc comment devenir un sales ninja, c'est 7 étapes. La première, c'est ça part d'un état d'esprit, qu'on ne vend plus et qu'on crée des relations. Donc déjà, oublie ça, je dis oublie le mot vente, oublie le vendeur à l'ancienne et tout, oublie. T'es là pour créer des relations avec les gens. Donc tu vois, il faut déjà que t'aies un côté humain. La deuxième étape, c'est de dire, je veux que tu sois passionné par ce que tu fais. Et ça veut pas dire être passionné tout de suite par son produit. Tu sais, quand tu rejoins une entreprise, admettons, vous vendez, tu sais, les caisses enregistreuses pour les restaurants, donc un logiciel. Quand t'es né, tu t'es pas dit, ah, mon rêve, c'est de vendre ça. Mais il s'avère que ce qui te passionne, c'est la vision de la boîte, la culture de la boîte, la stratégie de la boîte, et donc c'est ça qui te passionne. Et quelqu'un de passionné, ça fait toute la différence avec ton interlocuteur. J'ai un bon exemple. Souvent, moi, quand je vais en soirée, donc admettons une soirée d'un appart, un anniversaire de quelqu'un, tu connais pas grand monde, donc c'est souvent l'autre qui t'a invité. Lui, comme il est poli, il va te présenter. Et comme il est encore plus poli, il va dire, bon bah les gars, je vais vous chercher des verres. Vous voulez quoi ? Tu commandes et il s'en va. Et du coup, tout d'un coup, tu te retrouves en situation inconfortable parce que t'es avec quelqu'un que tu connais pas. Et là, moi, comme on est tous les deux aussi des personnes polies, tu vas te présenter. Ah bah moi, je fais ça, je bosse là. Et toi, tu fais quoi, etc. Ça m'est arrivé mais plein de fois. Quand le mec revient avec les verres, lui qui me connaît, il va dire, ah mais t'es déjà en train de lui vendre ton truc, etc. Et à chaque fois, c'est l'autre qui répond et qui dit « Mais non, mais il ne me vend pas du tout, c'est génial son truc, j'adore, etc. » Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en fait, quand je présente ce que tu fais, ton produit, c'est pour ça que tu vends tout le temps, c'est que tu le vis avec passion. Donc dans tes yeux, ça se ressent, dans tes mots, ça se ressent, dans ton langage non-verbal, ça se ressent. Et du coup, bah, tu l'as mis dans une situation de confiance Et du coup, le mec adore, en tout cas la personne. Donc tu vois, tout ça, c'est pas des techniques de vente, c'est des trucs que t'as en toi. Ça, c'est la deuxième règle, de dire il faut que tu sois passionné par ce que tu fais, ce que tu proposes, parce que ça se ressent. Le troisième, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que, bien entendu, ce que tu proposes réponde à un vrai besoin. Donc que ton produit matche avec un marché, donc le product market fit, on dit souvent. Donc, ça, c'est hyper important, parce que t'as beau avoir le meilleur état d'esprit et être passionné, mais si t'es à côté de la plaque, ça n'a aucun intérêt.
Si personne n'en veut, ça sert à rien.
Ça sert à rien. Et après, j'ai quatre autres étapes, bon, je vais pas m'étaler, mais il y a une partie qui parle de la prospection. En fait, c'est toujours négligé, on dit bon bah vas-y, je contacte tout le monde et on verra. Mais en fait, la prospection, toute la vente se fait là-dedans, dans la recherche de ok, qui achète mon produit ? Donc nous, c'est des entreprises. Ok, donc on va identifier nos entreprises, quelles sont les plus à même de nous commander rapidement ? Les startups, ok. Dans les startups, qui est la personne qui décide l'achat de mes produits ? En général, responsable marketing ou les fondateurs, ou parfois les RH, en fonction des besoins. Donc si on prend par exemple l'exemple des fondateurs, on va dire ok, maintenant comment contacter cette personne ? Est-ce que je lui écris par mail, je l'appelle, LinkedIn, etc. ? Tu te dis, bah en fait, c'est des personnes busy, qui sont toujours occupées, et du coup, tu n'auras qu'une impression. Par contre, les fondateurs répondent tous à tous leurs emails. Pourquoi ? C'est l'image de la boîte. Un mec qui ne te répond pas, ça veut dire qu'il s'en fout. Et du coup, bah, c'est une porte ouverte à aller te plaindre. Ouais, il ne répond pas, etc. Donc, tu choisis le mailing. Ensuite, tu te dis, bon, le mec, il faut que j'aille droit au but. Donc, je ne vais pas lui vendre mon truc pendant 10 lignes, envoyer ma plaquette. Je vais lui dire, je pense qu'il y a un truc qui t'intéresse. Bref, on avait écrit un mail super sympa. Et ensuite, tu suscites l'intérêt. Et en suscitant l'intérêt, bah derrière, tu pourras commencer ta vente. Tout ce travail de prospection qu'on a vraiment travaillé, mais des heures et des heures, c'est comme ça que tu vas pouvoir transformer. C'est pas je target tout le monde et tout ce qui tombe, ça va me servir.
T'es très vraiment focus sur quels sont les clients idéaux, ceux qui sont prêts à acheter.
Ouais, parce que t'adaptes ton discours.
Et j'adapte ma communication.
Et t'adaptes ton discours, etc. Ensuite, il y a tout la partie, ce que j'appelle le suivi et le follow-up. Donc c'est que, alors oui, tu peux démarcher tout le monde, mais tu vas être avec des stades différents avec tout le monde. Il y en a qui n'en veulent pas avant 6 mois, qu'il va falloir recontacter. Il y en a qui en veulent maintenant, d'autres qui ont besoin de valider avec leurs équipes, etc. Et du coup, ce qui est hyper important, et ce que tout le monde oublie par flemme, où on se dit « ouais, je l'ai dans la tête », etc., c'est de tout noter. Donc, utiliser un CRM, mais t'as beau avoir le meilleur CRM du monde, si toi, t'es pas rigoureux derrière, ça marche pas. Donc, même Google Sheet ou Excel fonctionne. Tant que t'es rigoureux à tout noter, à chaque fois que t'as noté ce qui vient de se passer avec ce prospect, il doit y avoir une action derrière qui est automatisé. Et ça permet toi de te décharger mentalement de tout ce que tu as à penser. Et surtout, ça te permet d'avoir une feuille de route de qu'est-ce que je dois faire demain, qu'est-ce que je dois faire demain, etc. Et du coup, bah, en fait, tu laisses passer aucune opportunité à côté et tu transformes plus. Donc ça, c'est la cinquième. Sixième, c'est le côté expérience. Je te disais aujourd'hui, ce que tout le monde attend, c'est une expérience client. Et on va de plus en plus, que ce soit B2B, B2C, on est devenu de plus en plus exigeant. Et donc, on va choisir une boîte par rapport à l'expérience que ça me fait vivre, donc le côté émotion, etc. Et donc du coup, bah, là, c'est ce travail sur comment je rends mon expérience incroyable. Donc je te parlais de la customer journey, etc. Pourquoi cette personne vient et pourquoi elle va revenir ? Parce qu'en fait, on s'en fiche qu'il achète une fois. Tous nos métiers sont des métiers de fidélisation. Tout le monde veut créer une communauté.
Est-ce que le coût d'acquisition d'un client, il est bien plus élevé que ce que ça te représente de faire que ton client il rachète s'il est satisfait ?
C'est clair, c'est clair. Bah, alors nous, on a eu la chance, on n'avait aucun coût d'acquisition puisque on utilisait des techniques gratuites, mais du mailing, etc. Mais on n'avait pas mis de budget particulier là-dessus. Mais en effet, t'imagines tout le temps que tu passes à aller chercher cette personne, si c'est pour que les trois quarts ils s'en vont derrière, ça n'a aucun intérêt. Donc, expérience client, c'est la sixième étape. Et la septième étape, c'est le closing. Donc, signer ce devis.
T'aimes bien ça.
Il faut signer et du coup, c'est l'étape la plus importante et celle la plus dure. J'ai déjà vu des commerciaux dans mon équipe qui faisaient tout parfait. Sauf que tu vois, leur chiffre, il n'est pas incroyable. Mais je me demandais pourquoi. J'ai lu tous leurs messages, ils sont parfaits. Sauf qu'en fait, ils avaient peur. Il y avait ce côté où, ah non, mais attends, si je lui demande de signer le devis, il va croire que je lui vends et tout. Mais si il a fait tout ce process, c'est qu'il attend que tu lui vendes quelque chose et qu'il est prêt. Et donc, en fait, souvent, cette partie closing, c'est parce que on n'ose pas, parce qu'en plus, bah, on parle d'argent, donc c'est toujours un problème. Or, il est venu pour te chercher, il sait que ça a un prix. Et en plus, vous négociez depuis je sais pas combien de temps. Donc du coup, trouve le bon stratagème pour lui dire, bon bah voilà, le devis à signer, et signe maintenant, même si t'as pas le besoin tout de suite.
Est-ce que tu dirais en tout cas que la partie sales, ça a joué beaucoup dans votre développement et la croissance que vous avez eue en 3 ans ?
Complètement. Nous, on est clairement une boîte de sales et la méthode qu'on a appliquée, les outils, l'équipe, allez, la moitié de la boîte est sales en fait, et bah, ça a joué complètement.
En tout cas, je veux appuyer dessus parce que tu vois, il y a des personnes qui ont vraiment la mission de vouloir changer le monde, changer des vies, entreprendre, créer des produits qui font une différence. Mais c'est vrai que si tu mets pas de valeur soit sur le sales, soit sur le marketing, tu peux même pas réaliser ta mission.
Non, mais c'est clair. Et c'est cool que tu parles de marketing aussi parce que moi, c'est les deux sujets qui sont pour moi bah, complètement liés et tout aussi importants. Parce qu'on va dire le sales va être ton outbound, donc aller chercher les clients, quelle est ta méthode de prospection, ta stratégie, etc. Et le marketing, c'est ce qui va faire parler toi, le bouche-oreille, et qui vont venir tout seul vers toi. Mmh. Et donc du coup, les deux sont tout aussi importants, que tu sois B2B ou B2C, mais ta com et ton market est extrêmement clé. Dans tous les cas, le but d'une entreprise, bah, c'est de vendre, de faire du chiffre d'affaires et de gagner sa vie. Et donc du coup, bah, tous les pôles de la boîte, normalement, sont tournés vers ça. Moi aussi, j'ai remarqué pas mal de gens qui ont des super compétences, super projets, veulent changer le monde et peuvent, mais ils oublient de vendre. Bah, je sais pas vendre, donc il me faut des commerciaux, donc ils recrutent vite fait. Et les en fait, les mecs, ils plantent tout et au final, ça n'a pas le développement voulu. Or, il y avait une pépite initiale. Donc du coup, sales, c'est la clé du business, clairement.
Ça m'intéresse qu'on puisse discuter sur la difficulté de ce que c'est être entrepreneur. Moi, je sais que parfois, ça m'est arrivé d'avoir la peur de ne pas pouvoir payer mes équipes. Ça m'est arrivé de faire des erreurs qui ont coûté de l'argent à l'entreprise. Il y a aussi cette pression de est-ce que je recrute la bonne personne, si peut-être je vais faire une connerie. Enfin, c'est quoi aujourd'hui le truc le plus inconfortable pour toi dans ton quotidien d'entrepreneur, le truc est le plus dur à vivre émotionnellement?
Bah, je pense que le plus challengeant, c'est en ce moment. On va dire que les deux premières années, c'était assez fluide parce que justement, on avait une bonne stratégie commerciale, une bonne communication, un vrai marché, une vraie porte ouverte. Du coup, on a juste accéléré et on a fusé et on s'est structuré, etc. Je pense que le plus gros challenge, je le vis aujourd'hui. Et c'est assez costaud parce que donc on en parlait avant, mais donc nous on n'a jamais levé de fonds. On a un business model qui nous permet d'être rentable depuis le premier jour, et donc du coup on a toujours vécu de nos propres bénéfices et autofinancé. Donc du coup déjà de base on s'est mis à risque tous les mois. Donc moi la question de est-ce que je vais avoir assez d'argent pour payer le mois prochain, elle se pose tous les mois et depuis presque 3 ans. Mais il y a cette attitude face au risque où t'es aussi confiant et aussi sûr de toi et tu le fais. Donc ça m'a pas vraiment posé de problème. Le gros challenge aujourd'hui, c'est que bah, nos coûts ont quand même nos coûts fixes ont assez augmenté, que ce soit nos bureaux, bah, la masse salariale, les outils que tu utilises, etc. Et autres. Et donc du coup, maintenant, c'est de te dire, ok, maintenant, comment je multiplie mon chiffre d'affaires, mes revenus, sans augmenter mes coûts. Donc vraiment, bah, scaler. Aujourd'hui, nous, on n'est pas une boîte technologique avec un logiciel où tu peux avoir 1 million d'users alors qu'il y a une personne derrière. Nous, il faut quand même que bah, on aille chercher tout ça, même si le marché, c'est des milliards et des milliards. Et donc du coup, le gros challenge, moi, qui me travaille au quotidien, c'est comment amener cette boîte qui fait 10 millions à demain 100, 200 millions et sans exploser les coûts et sans recruter 10 000 personnes, parce que ce n'est pas le but non plus. Et donc du coup, tu te poses toutes les questions sur est-ce que du coup, mes équipes actuelles sont les bonnes, ça veut dire qu'elles sont efficaces et performantes. Moi, il y a un sujet autour de l'équipe qui est quotidien et de dire est-ce que je pense que cette personne est la meilleure pour ça. Et si ça ne l'est pas, qu'est-ce que je dois faire? Et ce qui m'est arrivé pas mal de fois depuis 2 ans et demi, 3 ans, c'est que il y a plein de gens qui ont changé de poste. En fait, je pars du principe que s'ils ont passé la porte d'entrée de la boîte, c'est que bah, j'ai cru en eux à un moment et qu'ils croient aussi en la boîte. Et donc du coup, je ne suis pas du genre à dire t'es pas compétent là, bon bah au revoir. Et en fait, je vais te dire, je pense que t'es pas le meilleur ici. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu connais le scope de la boîte et tu connais la vision. Où est-ce que tu penses là où tu seras le meilleur? Et c'est comme ça que j'ai eu des transferts de compétences incroyables entre un sales qui est devenu aujourd'hui mon head of digital, un sales qui est devenu aujourd'hui bah, mon DAF, quelqu'un qui était en logistique et production qui est aujourd'hui sales et qui est excellent là-dedans, alors qu'il n'avait jamais fait d'études là-dedans. Une personne qui était sales mais qui est passée maintenant en growth, donc du coup elle s'occupe, cette personne, de créer les nouveaux produits. Et donc comme elle avait 4 ans de conseils et c'est quelqu'un de très stratégique, bah, en fait c'est parfait. Et donc du coup c'est un jeu où moi ça a été un challenge permanent pour les équipes. Donc là aujourd'hui c'est de dire on est 40, comment avec cette équipe je peux aller chercher les records, etc., sans recruter en permanence. Est-ce que tu remets en question ton équipe? Non, parce que tu as confiance en ton équipe. Donc ça, il y a tout ce travail mental de se dire c'est bon, j'ai confiance en toi et je me suis structuré de manière assez militaire aujourd'hui où bah, j'ai un middle management où j'ai 7-8 personnes autour de moi qui vont avoir leur propre équipe. Et donc du coup, bah, tu donnes full confiance et maintenant, bah, tu regardes vers l'avenir et te dire ok, quelle va être la stratégie digitale, tech, commercial, produit, opportunité de marché, rencontre, etc. Donc toi, t'es, en tant que fondateur et en tout cas dirigeant, tu laisses tout l'interne travailler en opérationnel et toi, tu dis, ok, maintenant, comment je passe la marche d'après ? Parfois, tu te dis, oh là là, j'y arriverai pas, c'est angoissant, c'est dur. Mais de l'autre côté, tu dis...
Comment tu gères un moment comme ça ? Moi, je vois bien qu'en fonction de comment j'ai dormi, en fonction de ce qui s'est passé dans la journée, en fonction du nombre de galères qu'il y a eu dans les 3-4 derniers jours cumulés, si ça arrive, hein, les 4 jours d'affilée plus fatigue, je vais pas avoir la même psychologie qu'un jour où je suis en forme.
Clairement.
Comment toi, tu gères un moment où tu cumules plusieurs trucs stressants et en plus de la fatigue, si tu le gères comment un moment comme ça ?
Je coupe complet. C'est vrai qu'il y a des jours où t'es le plus heureux du monde et tout est incroyable. Et tu rentres chez toi, tu sais, comme un écolier, voilà, tu fais le petit saut, tu dis incroyable, je suis le maître du monde. Et il y a d'autres fois où tu dis, là, en effet, il y a eu cette galère, oh, ça me gonfle. Ce que je fais, moi, je coupe complet. J'y pense plus déjà. Je dis, bon, on verra demain, je fais autre chose. Est-ce que je vais voir des amis ? Est-ce que je vais me regarder des films ? Est-ce que je vais, je sais pas, m'occuper à autre chose ? Et en fait, comme du coup, ça fait 10 ans presque que je crée des projets. Cet état, je l'ai connu 200 000 fois. Et du coup, maintenant, je me connais. Et donc, j'ai fait cet apprentissage où je me dis, là, tu vois, t'es énervé. Tu remets tout en question. Alors, tu sais que c'est faux. En général, je vais faire du sport. Ça, c'est efficace, mais direct. Tu sors du sport, t'as oublié en fait pourquoi t'étais énervé et ça a changé.
T'arrives même pas à retrouver le problème.
Tu retrouves pas le problème. Tu dis, en fait, tout va bien. Il n'y a pas de sujet, tu vois. En fait, c'est juste un état de stress. Et en fait, je sais qu'une bonne nuit ou autre, tu te réveilles et ça part. Parce que moi, j'accepte pas justement le négatif ou les problèmes. Donc, je pars du principe où je me dis, il faut que ça parte vite. Donc, quelles sont les solutions ? Donc, quand il y a des galères ou il y a des trucs chiants, et il y en a tout le temps, c'est quoi la solution ? Ok, est-ce qu'il faut prendre une vraie décision, c'est-à-dire couper ça ? Ou est-ce qu'il faut plus changer de stratégie, etc. ? Et du coup, couper te permet de, quand tu te remets sur le sujet, d'avoir la bonne décision. Et tu vois, moi, je me suis toujours promis d'avoir mon équilibre de vie qui reste intact, à savoir, je l'ai mis en 5 pôles. Le premier, donc, c'est les amis. Ensuite, la famille, ensuite la santé, ensuite le travail et ensuite ta vie amoureuse, donc le côté cœur. Et en fait, ces 5 pôles doivent toujours être équilibrés. Et quand je suis trop dans un, maintenant, je me dis toujours, oula, attends, t'es trop là-dedans, il n'y a plus de place pour le reste. Et il faut que tu gardes cet équilibre et je me le dis en permanence. Et du coup, tu vois, comme mes journées sont assez intenses, le week-end, je fais rien, mon ordi est fermé. Et du coup, je repense à cet équilibre. Est-ce que je donne assez de temps à ma famille ? Est-ce que je donne assez de temps à mes copains ? Ou en tout cas, je les vois avec eux ? Ou est-ce que, en fait, je vois trop mes potes et je travaille pas assez ? Tu vois, donc tu te dis, ok, là, il faut se mettre un petit coup de pied au cul parce qu'il faut aller chercher ses résultats. Et du coup, dans ce jeu de réflexion d'équilibre, ça te permet de quand même être très fort et d'être toujours intègre. Et que même quand il y a une très mauvaise nouvelle ou un truc qui te fait chier, tu te dis, attends, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien, va faire du sport, va te changer les idées et demain, tu verras, ce sera un nouvel jour.
J'aime beaucoup ce truc-là, moi je partage souvent et moi ça m'aide. Voilà, comme tu disais, j'apprends à me connaître et de réaliser, tiens, là je suis dans un mode où en gros, toutes les pensées que je vais avoir, elles sont pourries.
Exact.
Donc ça sert même à rien que je parle avec moi-même.
Exact.
Il vaut mieux que j'aille à la piscine, au sport, que j'aille dormir, que j'aille me mettre devant Netflix.
Complètement.
Que même de considérer les pensées, parce qu'en fait, plein de fois j'ai fait l'erreur d'avoir ce dialogue avec moi et tu commences à créer un scénario qui est pourri. Ma métaphore pour moi, c'est un petit peu comme quand tu t'occupes d'un bébé, tu sais, tu dis voilà, il est fatigué, il a pas mangé, il a pas fait sa sieste, et tu lui en veux pas en fait, tu sais juste que ça passera.
Exact.
Et moi, ça m'aide cette métaphore de me dire,
très belle métaphore.
Le bébé, il est juste fatigué, il va se reposer, on va retrouver l'énergie.
Non, mais c'est clair, c'est un vrai jeu mental et qui te fait grandir au quotidien. Et je pense que tu vois, moi je dis toujours, il y a pas d'échec, il y a que des enseignements. Et donc du coup, tu pars du principe que même quand ça marche pas, ça fonctionne pas, qu'est-ce que t'as appris? Ça m'a fait grandir sur ça, j'ai appris sur ça, ou j'ai rencontré cette personne. Donc en fait, il y a toujours un mal pour un bien. Et quand t'as ce mindset, en fait, t'es inarrêtable. Et du coup, tu deviens une machine de guerre. Et du coup, tout ce que t'apprends est en toi. Donc dès que la situation se représente, tu l'affrontes beaucoup plus. Donc t'es prêt demain à affronter beaucoup plus gros et d'aller encore plus loin. Et c'est ça qui est assez excitant. Et tu vois, je pense que ces 10 années... Si je reviens à mes 18 ans, premier projet entrepreneurial, avant de rentrer en école de commerce, ensuite enchaîner 4 boîtes, je sais que c'était un apprentissage incroyable, mais en fait, je n'ai rien vu comparé à ces 10 prochaines années qui vont arriver, parce que comme tu montes en intensité à tout niveau, tu montes intellectuellement, émotionnellement, professionnellement, personnellement, en fait, tout va être décuplé. Et du coup, tu te crées ton bagage avec toutes ces expériences qui va permettre de renforcer. Donc en fait, c'est jamais trop tard pour commencer, tu peux te lancer demain, mais du coup, maintenant, sache que 1. Te mets pas la pression à te dire c'est le projet de ta vie, ça y est, je suis le prochain Bill Gates. Dis-toi que ça peut t'apporter dans tous les cas que du bien de faire. Et quand tu fais, tu te découvres, tu t'apprends et tu fais t'as cette capacité mentale à réfléchir. Je suis à fond là-dessus. Je connais pas beaucoup de gens qui le sont aussi, mais moi je pense que c'est la clé, c'est ce qui me permet moi d'être toujours à fond, toujours heureux, toujours optimiste et de jamais en faire trop. Tu vois, je suis pas, et de garder un équilibre et kiffer quoi. C'est le but de la vie. Hein.
C'est clair. J'ai plein de questions dans plein de directions, donc il faut que je choisisse, mais juste rapide. T'as dit tout à l'heure que t'étais un optimiste et que parfois ça avait des inconvénients. Comment tu trouves l'équilibre entre ah, tout est possible, je vais le faire, on peut aller faire ça, moi j'y crois, et tu délires.
C'est vrai que moi je suis très enthousiaste très rapidement ou je m'emballe assez rapidement. Et en fait, l'équilibre à trouver entre réalisme, optimisme et ce qu'on te dit, t'as ce que t'as envie, ce que tu penses, sur lequel t'es sûr. Et ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il faut confronter ces idées. Donc tu vas en parler à un tel, un tel, un tel, un tel. On va dire, mais non, c'est pas une bonne idée. On va dire non, non, non. Ou il y en a un qui va dire, ah, pas mal, mais non. Et en fait, c'est vrai que moi, plus on me dit non, plus ça me chauffe. C'est-à-dire, parce que comme je suis sûr de mon truc, je me dis, mais non, mais vous avez rien compris. Mais du coup, c'est, en effet, il y a un problème à ça, c'est que c'est là où tu dois faire ce jeu et te dire, attends, s'ils me disent tout ça, c'est qu'il y a bien une raison. Je pense qu'ils veulent pas mon mal. Maintenant, ils ont peut-être pas tous les éléments pour faire le choix, mais moi, j'y crois. Et donc, du coup, tu dois juste prendre en compte que si vraiment on te dit, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, et toi, t'es sûr de toi, tu sais que tu prends un gros risque. Soit tu dis, bon, j'assume, et si je me plante, ils auront eu raison. Donc la prochaine fois qu'ils vont me le dire, j'ai peut-être les écouter à deux fois. Mais ça veut pas dire qu'ils auront raison la prochaine fois. Mais du coup, soit tu prends ce gros risque, soit tu te dis, bon, je vais faire un entre-deux. Ils me disent ça, je pense ça, on coupe la part en deux, je vais faire comme ça. Et là du coup, je me satisfais moi-même, je me dis, j'ai pris un risque certes, mais j'ai écouté quand même mon cœur, mais en prenant en compte ces considérations, et j'y vais et on verra les résultats. Et si j'ai entièrement raison, et je me dis que j'aurais pu faire plus, je me dis, j'aurais pas dû les écouter. Et donc, du coup, pour la prochaine fois, tu le feras. Tout ça te nourrit mentalement. Et maintenant, après, t'arrives à jouer avec.
T'arrives à être meilleur. Par le passé, est-ce que t'avais tendance que là, tu dis que ouais, tu prends des points de vue, est-ce que par le passé, t'écoutais pas et t'y allais direct?
Ouais, souvent quand même. Tu vois, mes parents, je pense tout ce qu'ils m'ont dit sur tous mes business, j'ai fait tout le contraire. Et j'ai eu raison. Et j'avoue, il y a des trucs où ils avaient raison. Mais je suis content de l'avoir fait parce qu'en fait je l'ai compris.
Avec la maturité, t'as gardé l'optimisme, mais t'as mis cette capacité parfois à prendre du point de vue, c'est ça?
Ouais, un peu plus. Mais même encore aujourd'hui, tu vois, dans Kimono, dans l'équipe, moi ils savent que j'ai toujours plein d'idées tout le temps, je lance des projets, donc là parfois ils me calment, mais parfois je dis ouais, il faudrait qu'on fasse ça. Et en fait, je regarde maintenant que j'ai confiance en moi, je regarde. Plus il y a de non, plus c'est une bonne idée. Donc dès que j'ai une idée, moi j'en parle à tout le monde. Je dis ah, au fait, tiens, regarde, j'ai pensé à ça, je la challenge. Si on me dit oh, c'est génial, bon là ça te conforte et t'y vas. Alors que ça se trouve, c'est complètement con, mais ils ont voulu dire ça pour te faire plaisir. Et plus on me dit, ouais, je sais pas, ou autre, machin, là, tu vas te poser la question, tu vas dire, non, mais en fait, j'y crois, donc j'y vais. Et j'avoue, je suis encore un peu comme ça. En fait, je trouve qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite. C'est en fait, c'est un chemin.
C'est quoi
et ton ce qui se passe.
Ton grand rêve, pourquoi tu fais tout ça?
Bonne question. En vrai, simple. Moi, ma passion, c'est la vie. Donc, je suis très heureux d'être sur cette terre. Je suis très heureux de la vie que je vis, donc du coup faisons en sorte qu'elle soit incroyable. Et donc du coup, partant de ce principe là je sais que ça peut s'arrêter demain pour un accident, demain pour une maladie, mais genre comme ça. Et donc du coup, je vais pas me prendre la tête, je vais pas essayer de faire tout et n'importe quoi, je vais faire vraiment un truc qui me plaît et que je sois bien dans mes pompes. Donc après tu te poses la question, qu'est-ce que tu veux faire? Moi je sais que ce que je m'étais dit un petit moment, j'ai envie de créer, j'adore les projets parce qu'en fait c'est une expérience sociale parce que tu rencontres des gens, c'est une expérience intellectuelle parce que tu dois créer, tu dois produire de la valeur. Et c'est une expérience de connaissance et de compétence parce que t'apprends des sujets et t'apprends des choses. Et en fait, on s'en fout du résultat si ta boîte tu vas la vendre ou pas, mais c'est juste que prends du plaisir en permanence. Et mon rêve, c'est juste profiter de ma vie au maximum et de faire de cette vie une superbe œuvre d'art. Mais je n'ai pas un résultat. Je sais qu'en fait, c'est le chemin.
Tu veux passer ta vie à créer des trucs.
Ouais, je sais que je veux créer plein de choses et partager et surtout ne pas être seul. Tu vois, ça sert à rien de réussir seul. De partager, d'entraîner des amis, des proches, des inconnus dans tes aventures. Parce qu'en fait, on vit que pour ça. C'est des moments de vie humains au final. Et moi, il n'y a que ça qui me fait kiffer. Et je me dis, tant que ça dure, éclate-toi et on verra.
Tu te vois entrepreneur jusqu'au dernier jour?
Ouais, clairement. Mais là, je sais qu'il n'y a plus de sujet. C'est que demain, tout s'arrête. Je sais que je vais vouloir recréer quelque chose.
Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont faits pour entreprendre et d'autres non ou pas?
Il y a des moments où t'es fait et il y a des moments où t'es pas fait. Mais je pense que dans une vie, tout le monde peut être entrepreneur. Il y en a qui ont plus peut-être des capacités, mais en fait, comme c'est que de l'apprentissage permanent, bah en fait, est-ce que toi, t'es prêt à faire ces sacrifices, avoir cette dose mentale? Parce que quand tu crées un projet, c'est en permanence dans toi, t'es tout le temps dedans. Donc, est-ce que t'es prêt à avoir ces sacrifices, cette charge, les problèmes que ça peut impacter et les...
Est-ce que par exemple, quand tu disais autres, que tu coupais le week-end, donc tu coupes le week-end physiquement, mais est-ce que dans ta tête, c'est coupé?
Bah, pas vraiment, mais en fait, j'en ressens pas le besoin. Ouais. En fait, c'est je coupe physiquement mes actions, on va dire opérationnelles, mais mentalement, j'y suis tout le temps. Même quand t'as pas envie d'en parler, ah, au fait, alors, donc t'en reparles. Mais en fait, je coupe pas parce que, bah, en fait, j'aime ce que je fais. Donc, du coup, si t'aimes ce que tu fais, il y a pas de différence entre le travail et ma vie chez moi. C'est en fait, c'est juste, c'est ta vie, t'as ce projet, t'as ça, et donc, du coup, t'essayes d'englober le tout. Et non, je coupe jamais mentalement parce que si je voudrais vraiment couper et dire je veux plus entendre parler, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc oui, il faut couper le fait de bosser et faire autre chose. Mais mentalement, si t'aimes ce que tu fais, tu l'as, quoi.
C'est cool. On en a toujours pas parlé, mais il faut absolument qu'on en parle. C'est comment t'attires des talents? Parce qu'effectivement, tu peux pas construire un truc majeur. Même si le fondateur, c'est un tueur, qu'il est brillant, qu'il a un QI, un QE extrêmement élevé. S'il est tout seul, je veux dire, il peut peut-être aller à plusieurs millions, mais il fera pas une boîte à 100 millions. Ou un milliard. D'ailleurs, vous avez un chiffre ou pas, Kimono, un truc, un symbole, hein?
Ouais.
Tu peux le partager ou pas?
Ouais, complètement. Moi, j'aimerais aller faire les 100 millions de CA. Je l'ai même calé dans le temps. C'est que là, aujourd'hui, j'ai trouvé la stratégie pour aller faire 50 millions de CA en 3 ans.
D'accord.
Et les 100 millions, je me suis donné 7-8 ans. Je sais là où il faut investir pour être meilleur. Et surtout, tu te dis, bon, bah, avec cette croissance, cette connaissance de marché, comment je peux aller chercher ce résultat? Du coup, bah, tu fais tes calculs, il faut ça parce que ça va m'amener ça, il faut ça pour m'amener ça. Et surtout, j'ai une stratégie de croissance externe qui va me permettre d'incorporer, de faire grandir le chiffre. Ça, je ne vais pas spécialement en parler, mais en fait, je me mets une roadmap où j'ai des objectifs, je vois mes ressources, je vois mes besoins et je vois ce qu'il faut faire derrière. Et tu l'écris, tu le poses et après, c'est d'arriver en permanence, quoi.
Alors, je ressens sur la question. comment t'as fait
pour attirer,
constituer ton équipe?
Première chose, c'est la communication de la boîte. C'est qu'en fait, quand t'es au début d'une aventure, techniquement, tout le monde s'en fout de rejoindre ta boîte. T'es pas connu, t'es pas sexy, on va pas être très bien payé. Il faut donner envie d'une autre manière. Et moi, la manière qui me passionne et j'adore ça, c'est la communication. Donc, communiquer sur ton projet, sur ta boîte, sur les valeurs, sur ta vision, sur ton identité, etc. Et du coup, c'est ça qui attire les premières personnes qui disent « Ah, j'adore la manière dont vous en parlez, je me vois là-dedans, etc. »
Pour obtenir tes clients, tu te demandes quels sont tes clients idéaux. Ensuite, comment tu fais un copywriting qui va leur parler et des vidéos qui sont sexy pour elles et des pages qui marchent pour elles. Et tu mets tout un process pour arriver à les obtenir. Mais qu'est-ce que tu fais pour obtenir des talents?
Je parlais de communication, mais il y a aussi autre chose et qui est très important, c'est le réseau. Je pense que mes 10 premiers sont arrivés par cet aspect de communication. Donc, comment tu fais? T'as une charte graphique, t'as des termes qui communiquent. Et après, c'est comment tu es présent sur les réseaux sociaux, comment t'es visible, comment tu te rends visible. C'est à toi de faire la bonne vidéo, la bonne photo, le bon visuel, la bonne...
Mais là, justement, c'est ça que je veux savoir. Photos, vidéos qui sont adressées aux clients ou qui sont adressées on recrute?
Alors, c'est jamais adressé on recrute. Nous, je pense qu'on a communiqué sur recrutement au bout de 2 ans. Avant, on n'a jamais dit on recrute. C'est en fait communiquer aux clients. C'est communiquer, mais même en fait, que ce soit tes fournisseurs, tes partenaires, tes clients et tes employés, ta communication, elle doit être valable pour tout le monde. Donc, quand tu montres ton produit, un fournisseur doit dire « Ah, c'est super !» Un client doit dire « Ah, c'est super !» Et un de tes employés ou un futur employé te dire « Ah, c'est génial, j'adore !» Donc, en fait, ça doit être vraiment en ADN avec ce que tu veux, pourquoi tu le fais et quelle est la direction artistique que tu veux de ce projet. Et de quelle manière tu vas créer ton contenu? Est-ce que vous êtes plutôt fun et décalé? Donc du coup, on va faire du contenu décalé, on va jouer sur l'actu et du coup, je communique dessus. Est-ce que tu vas construire ta ligne éditoriale? Donc par exemple, on a 5 jours, donc lundi à vendredi, il y a un post par jour sur un contenu, un sujet particulier. Donc ça va être une fois un focus sur la culture d'entreprise. Donc ça peut parler de la culture en général ou de l'équipe. Le deuxième, c'est sur les produits. Le mercredi, ça va être focus client, donc du coup on va montrer un client qui utilise notre produit. Donc nous, comme c'est les vêtements, on fait les photos, on a des shootings photos, et donc du coup on voit, on se projette. Le quatrième, sur tout ce qui est objet et office design, donc du coup on va parler d'autres produits mais sur d'autres thématiques. Et le cinquième, c'est identitaire, donc du coup un visuel de marque, un peu enfin jolie, tu vois, où on voit peut-être, on avait fait beaucoup de vidéos avec notre logo en plexiglas qui tourne, bah voilà, tu sais de l'identité de marque, donc faut donner envie, de quelle manière tu donnes envie. C'est comme ça que tu crées une bonne communication et après tu as une stratégie de diffusion sur les réseaux sociaux pour te faire entendre.
Ça c'est la, on va dire, la première grosse étape.
Voilà.
Et la deuxième, tu disais réseau.
Ouais, pour le recrutement, moi je pense que mes 10 premiers sont arrivés par le réseau. Alors c'est pas spécialement mon réseau moi
direct.
Proche, mais c'est voilà direct, mais c'est le réseau du réseau. Mon premier employé, c'était quelqu'un de mon école, donc qui avait 3 ans de moins que moi, que on se connaissait via une asso pendant l'école. Je me disais en tête, lui il a le profil parfait pour être le premier sales. Et du coup, bah, je lui parle du projet, je lui donne envie de me rejoindre. Donc là, t'es déjà dans la vente, en fait. Et du coup, tu convaincs.
Et t'étais clair sur les différents profils que tu cherchais ?
Pas du tout. Aujourd'hui, on l'est. Avant, on l'a jamais été. C'était vraiment, est-ce que t'as envie de rejoindre l'aventure ? C'est, regarde, je te présente tout. Voilà pourquoi on s'est créé. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Et pourquoi on veut changer le monde, entre guillemets ? Et bah, moi, je m'en fous de tes compétences. C'est, est-ce que t'en as envie ? Est-ce que t'as envie de poser cette pierre avec moi ? Et si oui, bah, je t'apprendrai tout. Et donc, en fait, mes 10 profils, il n'y en a aucun qui a postulé pour être sales. Mais comme on n'avait que ça au début à faire, c'est vendre, bah, du coup, tout le monde s'est retrouvé à faire du sales. Je leur ai dit, bah, tu veux rejoindre l'aventure, sache que ton premier job, ça va être ça. Mais par contre, moi, je veux te laisser maître de ta carrière en interne. Tu connais les besoins, et bah, c'est toi qui décides ta carrière. Le jour où tu veux passer dans ce pôle, c'est toi qui choisis. T'es maître. Par contre, tente par cette porte, ça, c'est moi qui te le dis, quoi.
Et ça t'est arrivé de rencontrer des gens qui ont très envie, mais tu te dis que... Justement, dans cette notion, je sais pas si elle te parle de A, B, C player, de rencontrer des gens où tu te dis non, c'est pas le niveau que j'ai besoin en fait.
Ouais, tu le sens parce que faut aussi que ça te ressemble. Je pense que les 10 premiers employés, ils te ressemblent, que ce soit humainement, socialement ou autre, parce que quelqu'un de complètement différent va peut-être te gêner et au début, t'as pas envie de quelqu'un qui déstabilise ce que t'es en train de créer. Donc au début, tu peux choisir un peu comme ça, mais quand je parlais du réseau, c'est que. En fait, c'est comme plus réseau parce que comme tu communiques, ton entourage va être au courant et donc du coup, bah ça va parler autour de toi et après c'est à toi-même de dire, enfin, à toi de dire, on cherche des gens. Ah bah mon cousin, ah bah mon frère, ah bah mon meilleur ami il cherche et ça vient. Et après.
Tu en parlais régulièrement de fait que tu cherchais des gens.
Ouais. Tu parles de ton projet tout le temps. De toute façon, quand tu te lances, mais même encore aujourd'hui, j'en parle tout le temps, t'en parles en permanence. Donc du coup, bah tu plantes des graines. Mais tu vois, c'est des sujets vraiment importants parce que moi ça s'est fait comme ça. Est-ce que dans ma prochaine aventure, ça se passera comme ça ? J'en ai aucune idée. Mais je sais que les 5-10 premiers, il faut que ce soit par le réseau parce que ça va être vraiment des personnes où il y a une confiance. Et au début, tu es obligé de lâcher les vannes et d'avoir full confiance en les personnes que tu recrutes. Même si tu sais pas, tu as des doutes, tu es obligé de dire « bon, de toute façon, j'ai pas le choix, je donne full confiance ». J'ai eu qu'un départ en 3 ans, donc tout le monde est resté. Tout le monde s'épanouit encore et moi les premiers me disent encore bah, lundi je vais pas travailler en fait, je viens kiffer avec mon équipe. Moi c'est mon principal KPI de succès, c'est de me dire bah en fait toute ma team s'éclate et moi il y a que ça qui m'importe. Donc du coup pari réussi, c'est de dire bon bah on s'éclate tous, on a une aventure incroyable, quel va être le prochain objectif parce qu'on est tous ambitieux. Mais pour recruter c'est lié à ton réseau, donc tu plantes des graines, tu parles de ton projet et tu verras. Moi ce que j'ai remarqué c'est dès que je montais un projet et que tu communiques, et bah, y a toujours quelques intéressés qui vont te contacter et te dire « Ah, au fait, je cherche une nouvelle à l'aventure, j'ai vu ce que tu faisais, ça a l'air cool, est-ce que tu cherches des gens ?» Donc du coup, y a plein de gens qui viennent te contacter, et d'où l'importance de constituer ton réseau et le connecter en permanence, quoi.
C'est cool. On a parlé de plein de choses au niveau du business, là juste plus pour des personnes qui seraient pas entrepreneurs. Au niveau de ton enfance, tu te dirais que t'étais confiante, quel genre de jeune t'étais?
La personne que tu vois là, je pense que j'étais pareil au collège ou au lycée. Ouais, j'étais très sociable, toujours plein de copains, j'ai été très sportif, j'ai joué au basket.
D'où est venu le désir d'entreprendre? T'as eu de la famille entrepreneur,
Je pense que le vrai déclic, c'est quand j'étais en terminale. Et quand je me dis, c'est pas je m'ennuyais, mais c'est que je trouvais ça simple. Enfin, tu fais tes cours, tu t'amuses, tu vois ta famille, tu vis ta vie, on va dire, qui est fluide. Mais il me manquait un truc un peu excitant. Et c'est là où, en fait, le projet des pulls est né. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et ce truc, je me suis dit, bah, on peut faire le pull du lycée, ça peut être incroyable, trop cool. Et ça a duré 8 mois, toute ma terminale. Quand j'ai fini ce projet, c'était déclic de vie. Où là, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai vu tout ce que c'est de créer un projet, là pour le coup j'étais seul, de gérer un projet, de la logistique, la vente, le marketing, tout ce qu'on entend par une gestion de projet, ça a été un déclic en me disant « Ah mais en fait maintenant je veux créer, c'est trop bien, parce qu'en fait t'apprends plein de choses et tout, j'ai vu tout de suite la valeur d'entreprendre. » Et c'est là où je me suis dit « Maintenant à côté de ma vie quotidienne, j'aurai un truc qui m'anime dès la vie. » Et donc mes 3 premières années d'école, j'ai fait que des trucs improbables, pas du tout sérieux, enfin plus ou moins sérieux, et j'étais opportuniste sur tous les projets. Dès qu'on me proposait un projet ou dès qu'il y avait possibilité, je disais go. Mais même si c'était mais nul moyen. Ou moyen, je m'en foutais parce qu'en fait, j'étais dans la création. Mmh. Et en fait, c'est ça qui a après drivé le mindset.
Est-ce qu'un jour, tu veux des enfants?
Ouais, grave.
Qu'est-ce que t'aimerais dire à tes enfants? Ils ont 15 ans et ils voient cette vidéo, t'aimerais leur dire quoi?
Tout ce que tu crois dans la vie, en fait, ça changera en permanence. Donc en fait, tout ce que tu penses que c'est comme ça et ça changera pas ou autre, mais en fait, ça change en permanence. Donc déjà, déstresse sur le fait qu'il y a un plan de vie parfait. T'inquiète, si tu rêves d'être comme ça, je te le souhaite, mais c'est pas grave, ça se fait pas. Ne te stresse pas sur tous les chemins de ta vie qui vont en fait s'entremêler en permanence. Il n'y a pas de risque, il n'y a que des opportunités de te connaître, de comprendre plein de choses. Tu verras, parfois tu seras malheureux sur plein de trucs, mais pars du principe que c'est incroyable et donne de l'amour en permanence et kiffe et profite et ne prends pas la tête. Et teste et fais des choses. Teste tout ce que tu peux tester. Et même si ce n'était pas comme ça que tu le voyais, tu verras, ça t'y amènera peut-être. Avec tout ce que j'ai appris, je lui dirais peut-être faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça. Mais en fait, je pense que je me retiendrai. Je lui dirais peut-être les valeurs auxquelles je crois, mais je te dirais fais, tu verras. Par contre, te prends pas la tête, sois optimiste, positif, parce que ce sera ta force pour braver toutes les frontières.
Et pourquoi c'est important pour toi là, que tes enfants, entre guillemets, ils fassent? C'est quoi le truc qu'il y a derrière?
Comme c'est ce que je fais, je comprends pourquoi je suis aussi épanoui dans ce que je fais, parce qu'en faisant, tu comprends qui t'es. Tu vis des expériences incroyables, ça te permet de bouger. Ça, en fait, ça te donne peut-être du sens à pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait. Et le fait de faire, c'est aussi tu crois. Et tu sais, on dit toujours l'espoir fait vivre. Et je pense que d'avoir un projet, c'est t'as l'espoir de dire que t'as envie qu'il réussisse. Donc du coup, tu fais des sacrifices ou des efforts que sans ce projet, tu n'aurais jamais fait. Et ça m'est arrivé des millions de fois. Et en fait, comme t'as cette espérance, tu crois et bah, que tu partages, bah, en fait, bah, tu vis tout simplement. Je pense que c'est ça.
Ça te rend vivant d'avoir un projet, ça te donne une raison de te lever, de te dépasser.
Ouais.
Tu vis des expériences que tu n'aurais pas vécues.
Exactement, des sensations émotionnelles, des sensations, enfin, on va dire, intellectuelles, parce que tu apprends. Je pense qu'on va apprendre toute notre vie, et tu apprends en compétences, en connaissances. Et tu vois, il y a des choses qu'aujourd'hui je sais, qu'à l'époque, je me disais, mais comment on peut faire ça, ou c'est nul, ou machin. Et en fait, tu te remets toujours en question. Tu pars du principe que rien n'est figé, tout est flexible et tout peut bouger. Et il faut être à l'aise avec. Ça veut dire, peut-être que tu penses ça aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, tu te regarderas et tu te diras, ah, mais t'es vraiment qu'un gros con à dire ça. Bah, en fait, oui, mais en fait, pourquoi aujourd'hui je peux me le dire? C'est parce que j'ai appris de tout ça. Et donc, c'est en faisant que t'apprends. Et je pense que toute la vie est un apprentissage et ça te fait vivre des choses incroyables. Sinon, on s'embêterait. Hein.
Moi, c'est cool en tout cas. Non, vraiment, je te remercie. Moi-même, ça m'a fait réfléchir sur plein d'aspects. Donc,
trop cool.
C'est vraiment cool.
Bah, merci à toi. Franchement. Super échange, c'est vrai que c'est des questions très profondes, c'est intéressant d'en parler, mais c'est vrai qu'un jour, moi, comme tout ce que tu m'as dit là, c'est des sujets qui me passionnent, est-ce que demain, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'arrive à les formaliser, peut-être que j'écrive une méthode ou autre, le Sales Ninja, la méthode, ça c'était ma méthode de sales depuis des années, et en fait, pourquoi je l'ai aujourd'hui formalisée, c'est qu'il y a une formation qui m'a dit de faire une conférence sur la partie commerciale, et c'est la première fois de ma vie, on m'a demandé d'expliquer ma méthode. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Et j'ai tout écrit et j'ai tout formalisé. Et aujourd'hui, mais ça m'aide mais de manière incroyable. Et du coup, il faut que tu aies un élément qui te le déclenche. Donc,
ah, mais de toute façon, c'est clair. Tu vois, en créant l'école de coaching pour moi et pour enseigner aux autres comment devenir un coach, au final, je suis devenu un meilleur coach en aidant les personnes à devenir coach.
Bah, bien sûr, mais bien sûr.
Donc,
tu vois, tu as tout dit. En voulant être le meilleur manager, bah, en fait, tu le deviens. Tu n'as jamais la compétence de base et du coup, bah, tu grandis comme ça en permanence, mais c'est trop cool.
Si tu as aimé ce podcast et ce type de contenu avec des entrepreneurs au parcours incroyable, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, on a créé une vidéo qui recense les 6 clés indispensables pour scaler ton business.
Donc aujourd'hui, j'ai développé tout un set de techniques pour aider les entrepreneurs que j'accompagne à bien sûr garder la foi, conserver cet optimisme de « je vais y arriver, je peux le faire, j'y crois », mais en même temps, être capable de manière, ce qu'on pourrait appeler un pragmatisme pessimiste ou le pessimiste pragmatique, c'est-à-dire voir les obstacles et les anticiper de manière le plus calme, centrée et stratégique possible. Charlie Munger a ce qu'il appelle la technique de l'inversion. La technique de l'inversion, c'est de faire presque contre-intuitivement l'opposé que de visualiser que ça va bien se passer.
Si tu veux découvrir ces 6 clés contre-intuitives qui vont te permettre de booster ton business, regarde la vidéo gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode.